Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Vivante Église pour un numéro que nous allons consacrer à un événement national. Il a lieu à Bordeaux les 15 et 16 novembre. Ce sont les Semaines Sociales de France qu'il est possible de suivre aussi en visioconférence. Nous allons vous présenter cette édition 2025, son programme, ses thématiques et ses intervenants avec l'invité de cette émission, Marie-Christine Monnoyer. Bienvenue Marie-Christine Monnoyer, merci d'avoir répondu à mon invitation. Je rappelle que vous êtes professeure des universités, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse et vous êtes secrétaire générale des Semaines Sociales de Toulouse. Vous êtes donc très impliquée dans l'événement qui nous intéresse aujourd'hui et de manière générale au sein des Semaines Sociales de France. Rappelez-nous ce que c'est, parce que je pense que beaucoup de gens ont sans doute entendu le terme Semaines Sociales de France, mais on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Alors dites-nous de quoi il s'agit et aussi pourquoi vous êtes engagée dedans.
Alors d'abord bonjour et merci de m'avoir invitée. C'est vrai que les Semaines Sociales de France sont une association qui est presque centenaire. Ce seront les 99 ans en termes de session, mais elle a été créée en 1904. Mais vous savez que la vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille au XXe siècle, ce qui explique qu'il n'y ait que 99 sessions annuelles. Donc les Semaines Sociales de France, elles ont été fondées dans la lignée de ce que le pape Léon XIII avait publié avec l'encyclique qui s'appelait « Rerum Novarum » à propos des choses nouvelles. Cette encyclique, elle avait interpellé en particulier des chefs d'entreprise et même l'histoire de Rerum Novarum est liée à un chef d'entreprise français. Donc cette association est née en 1904 sous l'égide d'un juriste et puis d'un journaliste chroniqueur social. Gonin et Boissard sont les deux fondateurs. Alors, ces deux fondateurs, qu'est-ce qu'ils avaient comme objectif? Eh bien, ils trouvaient qu'il fallait donner de la vie quotidienne à cette fameuse encyclique Rerum Novarum, à propos des choses nouvelles. Et je trouve que c'est intéressant de se rappeler le nom de Rerum Novarum, parce qu'au fond, dans l'esprit d'aujourd'hui des Semaines Sociales, eh bien, nous avons cet à propos des choses nouvelles. Tous les ans, nous avons un sujet prépondérant, qui est le thème de la session nationale. Mais en fait, toute l'année, nous travaillons sur différents thèmes. Et bien sûr, ces thèmes, on les choisit dans ce qui est notre vie d'aujourd'hui. Donc, des choses nouvelles. Qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse de l'écologie, qu'il s'agisse de la religion, et des rapports entre religion et société, qu'il s'agisse de l'Europe, qu'il s'agisse des élections présidentielles, eh bien, ces thèmes sont abordés année après année. Donc, l'objectif, c'est au fond d'être une université populaire. Et donc, la rencontre entre des chrétiens, et je n'ai pas dit des catholiques, j'ai dit des chrétiens, c'est-à-dire aussi bien les orthodoxes, les protestants, les catholiques. Et donc, la rencontre des chrétiens avec les problématiques sociales qui sont celles que nous partageons tous. C'est évidemment ambitieux, mais puisque ça existe depuis plus de 100 ans, c'est que cela répond en fait à des questionnements permanents de chacun d'entre nous. Et où trouver des appuis, des réponses, des idées sur ces problématiques quotidiennes. Bien sûr, on peut aller sur les réseaux sociaux, bon, même si en 1904, ce n'était pas tout à fait classique. Mais en fait, quand on est aux Semaines Sociales, on est à peu près sûr que tout ce qui est expliqué a un fondement à la fois théorique, scientifique et culturel sur le plan chrétien qui est un peu solide. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, sans doute, cette confiance se manifeste. Alors, venir aux Semaines Sociales, à la session annuelle, moi je le vis effectivement comme une université. J'apprécie de rencontrer des personnes qui ont travaillé un sujet et qui ont envie de me l'expliquer, même si je n'en suis pas du tout spécialiste. et par ailleurs de discuter pendant la journée et demie ou les deux jours des semaines sociales avec des tas de gens qui se posent aussi des questions sur ce sujet, pas forcément les mêmes que les miennes, et qui n'ont pas forcément le même âge que le mien, qui n'ont pas les mêmes expériences, les mêmes métiers, etc. Et donc, passer deux jours à réfléchir ensemble sur un sujet donné, moi je trouve que c'est enthousiasmant. Et c'est pour ça que j'y vais, c'est pour ça que je me suis impliquée dans les Semaines sociales de Toulouse, puisque l'idée initiale des Semaines sociales de France, c'était aussi de permettre un accès assez large. Et quand je dis des questions sociales, c'est aussi bien à Lille qu'à Lyon, qu'à Marseille, qu'à Angers ou même au fin fond de mon Lauragais préféré, on en a besoin. Et ces thèmes-là, on a envie de les vivre. C'est la raison pour laquelle les Semaines sociales ont des antennes dans plein de villes, plein de petites villes. Ce n'est pas uniquement dans les grandes métropoles. Il y en a, bien sûr, dans les grandes métropoles. Mais par exemple, l'antenne des Semaines sociales de Paris n'est pas la plus dynamique. Je ne vais pas dire quelle est la plus dynamique, j'en serais pas sûre, mais je vois que certaines montent en puissance. Celle de Lyon a été extrêmement dynamique pendant des années, puis elle a eu des difficultés, et puis elle est repartie. Celle de Nice, par exemple, maintenant est une des plus dynamiques. Et celle de Bordeaux, qui va nous accueillir au mois de novembre, elle est toute jeune. Et donc, ça veut dire que les questions qui sont posées suscitent des vocations, et je sais qu'il y en a une qui est en train de se préparer à naître dans le sud-ouest-sud-ouest de la France, dans le Pays Basque.
Alors une question là, vous nous expliquez un peu l'organisation des Semaines sociales. Les Semaines sociales de France est une association, hein, c'est vraiment un projet associatif avec des antennes dans certaines villes, grandes, moyennes, parfois petites. Comment vous travaillez les uns les autres? Il y a quand même une thématique générale chaque année et chaque antenne travaille sur la même thématique ou ça peut être un peu plus nuancé que ça?
Alors, d'abord, il y a un projet associatif. Ce projet associatif, si je cite la raison d'être des Semaines sociales, penser ensemble pour agir et travailler au bien commun, vous allez me dire que c'est général. Sauf que penser, agir. Donc, ce n'est pas uniquement un lieu de réflexion. C'est un lieu de réflexion qui se veut ancré dans l'action. Et le bien commun, c'est difficile à définir, mais ça fait quand même partie des grands thèmes de la doctrine sociale de l'Église. Donc, on est dans cette réflexion qui est penser pour agir et pas uniquement phosphorer pour le plaisir. On ne fait pas de la philosophie, même si on fait aussi de la philosophie. Chaque année, il y a donc un grand thème. Vous vous doutez bien que ce grand thème, si on va parler de l'intelligence artificielle au mois de novembre, ça veut dire que ça fait donc 18 mois que déjà on se creuse un peu la tête sur les problèmes, les risques et les potentialités de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, souvent, on est un peu en avance parce que je ne suis pas tout à fait sûre, et d'ailleurs on s'est beaucoup posé la question, il y a 18 mois, est-ce que ça va intéresser vraiment les gens, 18 mois plus tard, de réfléchir sur l'intelligence artificielle? Donc je sais qu'à chaque fois on prend un risque et on se dit on va peut-être tomber complètement à côté de la plaque. En fait, c'est très rare qu'on tombe complètement à côté de la plaque. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont suffisamment immergés dans la réalité sociale pour ne pas tomber hors des réflexions actuelles. Donc ça, c'est la grande activité de la session annuelle. Mais, et si vous allez faire un petit tour sur le site des Semaines sociales de France, vous allez voir qu'il se passe aussi beaucoup d'autres choses. Alors aujourd'hui, et avec le développement de la visio, eh bien, il y a de nombreuses propositions qui peuvent être suivies en visio, ce qui est quand même très commode, on le sait bien. Et puis surtout, c'est commode parce que c'est quand je veux, à l'heure que je veux, et au lieu où je suis. Cela permet de faire intervenir avec, par exemple, des conférences en visio, des personnes qui vont venir aborder tel ou tel sujet en fonction de leur spécialité et à l'instant T, c'est-à-dire d'un problème que l'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est...
c'est tout au long de l'année.
C'est tout au long de l'année. C'est tout au long de l'année, et pour ceux qui iront se promener sur le site, vous verrez qu'en plus, ces conférences en visio, vous les avez aussi en replay.
Et donc, on peut même les regarder 3 ans après.
Voilà, et de temps en temps, le problème devient plus sérieux et vous allez regarder ce qui a été dit 18 mois ou 2 ans avant.
Ça peut être intéressant de voir comment ça a évolué aussi.
Exactement.
Parce que ce qui a pu être vrai à un moment donné, il n'est plus forcément 3 ans après.
Voilà, et vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit pour moi, c'est un peu une université, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une source d'information qui est régulière et extrêmement solide. Il y a aussi, donc, je l'ai dit, des antennes un peu partout. Ces antennes, elles sont très ancrées dans leur quotidien, dans leur région, dans leur ville, etc. Et donc, elles abordent des thématiques qui peuvent être différentes de celles qui sont choisies au niveau national. Par exemple, je vais me faire l'apologie de l'antenne de Nice. Vous vous souvenez sans doute de ces inondations qui ont eu lieu dans la Rioja. Eh bien, 6 mois plus tard, l'antenne de Nice a organisé un voyage apprenant dans cette région, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on avait fait depuis que l'eau était arrivée sans crier gare. Et un an après, ils sont encore retournés dans un deuxième voyage apprenant
pour
voir ce qui avait été fait. Donc évidemment, là, on est complètement ancré dans la région et on est ancré dans des problèmes qui sont quotidiens,
on est sur le terrain,
mais qui sont aussi intéressants pour d'autres régions, parce qu'il n'y a pas que la Rioja qui a débordé.
Puisque vous abordez ce sujet des voyages apprenants, c'est bien d'expliquer ce que c'est, puisque c'est une des propositions des Semaines sociales de France, et ça donc de janvier à décembre. C'est quelque chose qui s'adresse à qui, en fait, il faut être adhérent des Semaines sociales de France,
non,
ou n'importe qui, en fait.
N'importe
peut...
qui. Le point fondamental, c'est de savoir que ça a lieu. Et donc, vous avez plus de chances, si vous êtes adhérent, que si vous n'êtes pas adhérent, d'avoir l'information. La question de la communication est toujours au centre d'eux. Mais, bien entendu, ça s'adresse à tout le monde. Et c'est un peu pensé, ben d'abord pour qu'on apprenne quelque chose, en fait, pour qu'on rencontre les gens qui ont quelque chose à dire sur le sujet. Et comme c'est généralement pas très loin, on n'est pas dans une organisation avec 50 autocars.
Oui, très lourde. Oui.
Voilà, c'est pas très lourd. Et l'idée de parfois de revenir, c'est aussi une façon d'approfondir pour chacun des participants un sujet. Il y a eu plusieurs voyages apprenants, par exemple à Bruxelles, pour comprendre comment fonctionnaient
les
institutions européennes. Et là, on a vu que des efforts ont été faits pour que, bon, en particulier pour aller à Bruxelles, c'est tout de suite un peu plus compliqué que quand vous faites 30 km. Eh bien, pour les étudiants en particulier ou pour les jeunes, ce soit plus accessible et qu'ainsi il y ait une rencontre. Le prof de fac que je suis a aussi emmené ses étudiants dans certains endroits, en particulier pour découvrir des institutions. Et on voit quelle est l'importance pour la jeune génération d'être au contact, en plus de gens qui ont un peu travaillé la question.
Oui, alors en parlant des étudiants, j'ai vu que les Semaines sociales de France organisaient aussi une journée des étudiants.
Oui.
Hein, autour d'un thème de réflexion.
Voilà. Alors, ce n'est pas très ancien. Ça doit faire 4-5 ans que ceci a été organisé pour une raison un peu simple. C'est que pour les sessions, la session annuelle, on n'a pas beaucoup d'étudiants. La population est plus âgée, on a plus de quinquagénaires et de sexagénaires que d'étudiants, et voire même de trentenaires. Bon, on sait bien que c'est difficile pour des jeunes couples, pour des étudiants, de dire, eh bien, je vais aller passer tout mon week-end à réfléchir sur un sujet, et qu'est-ce que je fais des enfants, et comment je m'organise dans la vie quotidienne. Et donc, en proposant une journée pour des étudiants, c'est plus facile de se libérer pour une journée, et donc pour un samedi par exemple, et de proposer de travailler ensemble.
Oui, parce que ce que vous voulez aussi, c'est transmettre le goût de l'engagement.
Alors on veut...
La volonté de s'engager.
Oui, et je dois dire que ça, c'est un point intéressant, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des tables inspirantes. J'aime beaucoup ce terme, parce qu'au fond, c'est une rencontre qui va vous inciter à soit vous engager personnellement dans une structure, ou soit simplement y penser. Moi, je me rappelle très très bien du jour où, à l'occasion des Semaines sociales de France, j'ai rencontré Jean-Marc Jancovici et tout ce qu'il disait sur la protection de la planète. Ça m'a fait changer, parce que c'était tellement porté que je me suis dit, mais il a raison, il faut que je fasse quelque chose. Alors, vous voyez, c'est un engagement qui, si je donne cette petite expérience personnelle, était personnelle et familiale. Je n'ai pas adhéré pour autant à une association écologique, mais ça m'a fait changer. Pour d'autres, c'est le départ vers une adhésion, en particulier pour les jeunes, dans certaines des structures qui sont proches maintenant des semaines sociales.
Alors, les autres propositions des semaines sociales de France, et là on peut trouver ça sur leur site internet, il y a une lettre trimestrielle papier, là pour le coup, donc des articles, des recensions sur l'actualité.
Voilà.
Il y a une tribune du christianisme social. Oui. Donc chaque jeudi, il y a un texte publié sur le site, un texte engagé qui questionne notre société sur un sujet donné, un thème donné. Il y a une plateforme du bien commun aussi. Alors ça, c'est participatif, c'est une boîte à idées.
Oui. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était depuis quelques années. Je vois sur la lettre que j'ai dans les mains que c'était la sixième au printemps de rencontre avec les étudiants. Donc effectivement, il y a cette lettre qu'on peut trouver sur le site internet. Si l'on est adhérent, bien entendu, on la reçoit. Bon, il y a des articles qui sont variés. D'ailleurs, je la feuillette en parlant. Bon, il y a tout un article ici de Dominique Bourg, un philosophe et un professeur un peu connu. Elle est en vert parce que c'est écolo. Les étudiants, ils sont en rouge, je ne sais pas pourquoi. Et puis, il y a aussi un texte, Lettre de Rome, parce que les semaines sociales sont allées à Rome. Et puis, il y a une réflexion, par exemple, sur la dette des pays en voie de développement par rapport à nous. Et puis, quelques lectures. Donc, c'est un petit journal, quoi.
Oui, oui. Alors, il y a des groupes de travail aussi, vous les avez évoqués, des webconférences qui sont gratuites, hein, en ligne. On peut vraiment y assister gratuitement, en tout cas pour l'instant.
Et ça ne dure qu'une heure, c'est-à-dire que ça se place très bien dans un planning personnel.
Même sur, vous êtes en voiture, vous avez un long trajet, voilà. Vous pouvez écouter la conférence, bien sûr, à partir
Absolument.
De votre téléphone. Est-ce qu'il y a eu des travaux et des réflexions des Semaines sociales de France qui ont eu une influence? Vous parlez de penser et agir. Comment vous agissez? Agir, on comprend souvent, c'est agir plutôt peut-être sur les politiques, sur les dirigeants. Est-ce qu'il y a eu des réflexions, effectivement, des travaux des Semaines sociales de France qui ont une influence sur des textes de loi ou des décisions gouvernementales depuis un siècle, hein, puisque ça existe depuis un siècle?
En fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour des raisons diverses. Il y en a beaucoup parce que dans les 30 premières années ou les 40 premières années de vie des Semaines sociales, on est 1936, on est dans une période dans laquelle toute la construction du système social français est en route. Eh bien, l'assurance maladie, au début on disait les assurances maladie, eh bien c'est la suite de réflexions sur les semaines sociales. Les allocations familiales, tout le monde sait qu'on dit que c'est le général de Gaulle, mais pas tout seul. Il y a eu des inspirations. Et donc, on a un certain nombre de textes, et ce n'est pas de la vantardise, parce que tous les ans, les documents issus de la session nationale sont publiés. Il y a des petits bouquins. Ce qui est dit à la fin et les propositions qui sont faites au pouvoir public, elles sont inscrites. Mais on va plus loin. Moi, je me souviens très bien, j'étais déjà aux Semaines sociales en 2006, quand ont été proposées 12 propositions pour une société juste. Ce document, ces propositions, elles ont été faites devant 4 candidats aux élections présidentielles de l'année d'après. Et je me rappelle d'avoir été dans la salle, je me rappelle d'avoir vu certains présidents que nous avons eus ensuite, eh bien, ils les avaient écoutés. Alors, est-ce qu'ils les ont appliqués? C'est une autre chose. Toujours est-il que ça leur a été dit en face à face. Et donc, on peut penser que cela a une incidence.
Merci pour cette présentation. Dans quelques instants, nous allons nous plonger dans le programme de la rencontre annuelle des Semaines sociales de France qui a lieu, je le rappelle, les 15 et 16 novembre à Bordeaux. On peut suivre ces deux journées en visioconférence, mais l'on peut aussi bien sûr y assister sur place. Pause musicale maintenant dans cette émission. Je vous propose d'écouter le troisième mouvement Molto Vivace de la Symphonie du Nouveau Monde d'Anton Dvorak. C'est une version de l'Orchestre National du Capitole.
Thank you.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne où je retrouve l'invité de cette émission, Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse et secrétaire générale des Semaines sociales de Toulouse. Nous reprenons notre échange autour des Semaines sociales de France, dont la rencontre annuelle 2025 a lieu les 15 et 16 novembre à Bordeaux. Vous y participez vous-même, Marie-Christine Monnoyer, et vous allez donc pouvoir nous présenter le programme. Tout d'abord, information très pratique. Ça se passe où précisément et à quels horaires?
Alors, ça se passe en plein cœur de Bordeaux.
Ça viendra à Toulouse.
Place de la Victoire. Bon, tous ceux qui connaissent un peu Bordeaux savent que vraiment la place de la Victoire...
Mais c'est très central.
C'est extrêmement central dans un bâtiment universitaire qui est place de la Victoire. Alors, c'est le 15, le samedi 15 et le dimanche 16 novembre. Sachant que, pour ceux qui ont un petit peu envie de venir plus tôt, il y a un off de la rencontre le vendredi 14 novembre, l'après-midi, avec des visites aussi bien au musée Cap Science et où il y a un café IA, enfin intelligence artificielle, ou une visite guidée à Bordeaux, ou une conférence sur de Laudato Si à la COP 30, puisque vous savez que c'est bientôt la COP 30, de Léon XIII à Léon XIV. Voilà, ça c'est pour le vendredi après-midi, pour ceux qui ont un petit peu plus de temps. Et puis sinon, c'est toute la journée du samedi 15 et toute la journée du dimanche 16.
On l'a dit, on peut y assister en ligne, mais il faut s'inscrire. Il ne suffit pas de se connecter au site web des Semaines sociales de France.
Non, il faut s'inscrire. Alors évidemment, pour y aller, il vaut mieux s'inscrire. Enfin, il faut s'inscrire.
Au préalable.
Bien évidemment, c'est payant, puisque il faut organiser tout ça. Et on peut s'inscrire pour une journée, on peut s'inscrire pour deux journées. Et donc, le prix n'est pas le même.
Donc, c'est modulable.
C'est modulable. Et on s'inscrit aussi pour être en ligne. Et à ce moment-là, on reçoit bien le code qui permet d'être en ligne. Il y a des prix différents pour les jeunes. Il y a un accueil pour les enfants, pour les couples qui viennent avec des pitchounets. Et puis, on s'inscrit sur le site. Et là, c'est très facile. C'est
la
classique.
Thématique précise de la rencontre 2025, c'est... La révolution de l'IA, un défi éthique et démocratique, construire ensemble pour aider au discernement. Le mot qui me semble très important, là, c'est discernement. Comment on aide au discernement?
J'ai envie de d'abord dire, pourquoi y a-t-il besoin de discerner?
Oui, alors...
Il y a besoin de discerner parce que, comme toutes les révolutions technologiques, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs.
Ou des côtés inquiétants.
Et des côtés inquiétants. Il y a des risques, et si on a mis comme titre « Défis éthiques et démocratiques », ce n'est pas par hasard. Donc, il y a besoin de discerner. Et comment on aide au discernement? En fait, en s'informant, en écoutant, en posant des questions, en regardant des expériences. À ce moment-là, chacun d'entre nous peut se poser la question « Quel peut être mon rapport avec l'intelligence artificielle ?» La première chose, sans doute, c'est que c'est aussi une façon de comprendre que vous utilisez tous l'intelligence artificielle sans vous en être rendu compte. La plupart des voitures maintenant sont équipées avec de l'intelligence artificielle. Tous nos téléphones sont équipés avec de l'intelligence artificielle. Et il n'est pas rare que la radiographie des poumons que vous avez fait ou de votre genou qui a mal a été faite avec un outil d'intelligence artificielle. Donc, en fait, le premier discernement, c'est de savoir que ça existe alors que je ne m'en étais jamais rendu compte.
À partir du moment où on utilise un ordinateur, et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, on utilise de l'intelligence artificielle.
Absolument.
Une calculette, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, bon, alors, maintenant, ça prend des proportions.
Ça prend
c'est
des
pour ça que ça inquiète, parce que ça va très vite.
Ça va très vite.
Beaucoup plus vite qu'avant.
Ça bouge très, très vite.
Et ça touche.
Et ça va très loin.
Tous les domaines.
Et ça touche tous les domaines. Donc, je crois qu'il est indispensable de se poser la question de ce que c'est que l'intelligence artificielle et de comment elle nous affecte. Il me semble que c'est indispensable parce qu'on ne peut pas passer à côté des révolutions techniques. Et ce n'est pas la peine de se dire qu'on n'en veut pas.
Elles vont s'imposer à nous, oui.
Voilà, souvenons-nous, c'était déjà comme ça dans le passé. Je me rappelle avoir lu dans mon livre d'histoire que quand le premier train a commencé à circuler, on a interdit aux femmes enceintes de monter dans un train parce qu'elles risquaient d'accoucher avant d'être arrivées à la prochaine gare. Maintenant, tout le monde prend le train et personne ne se pose de questions. Ce n'est pas une blague, c'est constamment. Les révolutions techniques nous interpellent et nous posent des problèmes. Donc, on s'arrête un tout petit peu et on se demande et on s'informe sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et c'est ça l'objectif.
Avec tout de même, il me semble, la particularité au sein des Semaines sociales de France, c'est qu'on confronte l'intelligence artificielle, ses développements, les questions qu'elle pose, à la pensée sociale chrétienne.
Absolument. D'ailleurs, toutes les réunions, toutes les sessions nationales des Semaines sociales commencent par une lettre du pape. Cette fois-ci, il y en aura une. Or, vous savez sans doute que nous avons déjà eu plusieurs textes pontificaux relatifs à l'intelligence artificielle.
Il y a des réflexions qui sont menées au sein de l'Église.
Antiqua et Nova, qui traite de la relation entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, est un texte qui a déjà été publié. Donc, on n'est pas du tout, par exemple, dans une situation dans laquelle l'Église catholique aurait dit « c'est un démon… »
Va de rétro Satanas.
Va de rétro Satanas. On n'est pas du tout dans cette réflexion-là. Au contraire, on est dans une réflexion importante parce que la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, c'est toute la question de la créativité de l'homme. Et si on a dit que c'était un défi éthique, ce n'est pas tout à fait par hasard. Donc, ce premier élément, je trouve qu'il est intéressant, il est réconfortant de se dire qu'aujourd'hui, en 2025, quand une grande révolution technique est en cours, eh bien, nous avons l'appui des autorités religieuses sur un approfondissement de cette réflexion. Quelque part, c'est d'une grande modernité. Mais bon, Léon XIII et Rerum Novarum, c'était une bombe.
À l'époque, oui.
C'était une bombe. Alors, je ne sais pas si Antiqua et Nova, c'est une bombe. En tout cas, c'est une prise de position. Et une prise de position qui n'est pas une prise de position négative, qui est une prise de position. Chaque personne sur cette planète est possesseur d'une intelligence créatrice qui est le fondement de sa personne, dont nous devons avoir un respect profond. Et donc, il n'est pas question de se dire que l'intelligence humaine va être remplacée par l'intelligence artificielle.
Le programme de ces deux journées, des 15 et 16 novembre, maintenant, que va-t-on y trouver? Il y a des conférences, il y a des ateliers, il y a des rencontres. Données par qui? Quelles thématiques sont abordées? Dites-nous tout, ou presque tout. Tout, ça peut être un peu compliqué.
En fait, je vais insister sur des moments qui, à mes yeux, sont des moments un petit peu fondamentaux. Quand samedi, on va démarrer.
Donc ça commence à 9h, l'ouverture.
Voilà. c'est assez classique, avec une conférence introductive, etc. Mais surtout, une première question, la question de la vérité à l'âge de l'intelligence artificielle. Or, nous savons que cette question de la vérité, elle nous interpelle profondément. Parce que nous sommes confrontés via les réseaux sociaux à des pseudo-vérités.
Et ce qu'on appelle les fake news.
Voilà. Et donc, au fond, c'est un premier point pour entrer dans l'intelligence artificielle. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, il y a des fake news. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, le professeur que je suis est impressionné par le fait que si on demande, pose une question à ChatGPT, il va vous répondre, même si elle n'est pas très bien posée, il va vous donner une bibliographie dans laquelle il y aura des textes qui n'existent pas. Et tous ceux qui l'ont utilisé, on en a tous fait l'expérience. Donc la question de la vérité, il est intéressant de se la poser dès le début. Et après, on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet parce que la première grande conférence, qui va être une conférence à plusieurs voix, eh bien, elle s'appelle « Entre liberté individuelle et sécurité publique ». Vous voyez qu'on sent immédiatement l'inquiétude sous-jacente liée au développement de l'intelligence artificielle, de l'accès à l'intelligence artificielle, qui pourrait, parce que les informations sont plus ou moins exactes, conduire au nom de la liberté individuelle. J'ai le droit d'aller chercher, j'ai le droit de communiquer, ça fait partie de notre démocratie. Et je suis confrontée avec le fait que circulent des informations qui sont erronées par choix. Donc on rentre vraiment dans cette question et sans doute ne serez-vous pas étonné que parmi les intervenants de cette conférence, eh bien, figure un ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui a aussi été ministre de l'Intérieur et donc qui s'est colté avec la question des fake news d'une façon relativement importante. Bien sûr, il ne sera pas tout seul, puisqu'on a aussi une directrice de recherche au CNRS et puis un député européen. Donc, on voit bien que cette question du lien entre la liberté individuelle, la démocratie et la question de la sécurité des informations qui apparaissent, qui sont proposées, elle est importante. Dans toutes les journées des semaines sociales, il y a toujours un fil rouge spirituel. C'est-à-dire une façon de rapprocher la thématique technologique et sociale qui est traitée avec nos référents religieux. Et cette année, et c'est souvent comme ça, les fils rouges spirituels sont réalisés par une pasteur, un prêtre catholique et un prêtre orthodoxe. Donc on est avec les chrétiens et on bénéficie de ces regards croisés de religieux qui partagent notre foi en Christ, mais qui ne le vivent pas au quotidien exactement de la même façon. Vous voyez que là, on est vraiment au cœur d'un sujet. Enfin, on rentre par celui de la question éthique et démocratique. Et puis après, on va aller plus loin en abordant ce qui est souvent très profondément critiqué contre l'intelligence artificielle, les enjeux environnementaux, puisque vous savez que l'intelligence artificielle est très, 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 très gourmande en énergie.
Consommatrice, oui, en énergie. Voilà.
Et nous aurons le plaisir d'accueillir Cécile Renoir. Je suppose que beaucoup de personnes qui sont à l'antenne connaissent Cécile Renoir. Sur le document, il n'est pas marqué qu'elle est religieuse. Mais moi, je sais qu'elle est religieuse. Et qu'elle est aussi professeure à l'ESSEC. Qu'elle est aussi celle qui a créé le campus de la transition, qui est un lieu désormais d'apprentissage de ce que ça veut dire que l'écologie, au sens le plus large et le plus riche du terme. Donc vous voyez, on va rencontrer des gens qui ont beaucoup réfléchi sur cette question de l'intelligence artificielle. Mais on ne va pas faire que ça. On va rencontrer des gens qui utilisent l'intelligence artificielle dans ces fameuses tables inspirantes. Pourquoi ? Eh bien parce que les médecins utilisent l'intelligence artificielle, les profs utilisent, les enfants, les adolescents, les étudiants utilisent l'intelligence artificielle. Donc, on va rencontrer des gens qui ont au quotidien des usages de l'IA. Des expériences concrètes. Et puisque je suis toulousaine et que je serai là-bas, moi j'anime un atelier sur intelligence artificielle et éducation et classe. Et je vais raconter ce que je vis au quotidien en ce moment, dans un terrain de recherche, avec une école primaire et une classe de CP, c'est-à-dire des pitchounes, des 6-7 ans. Je vous raconterai comment on a créé avec ces enfants et avec la magnifique institutrice, professeure des écoles, qui anime cette classe de CP, comment on a utilisé l'intelligence artificielle. Avec des points positifs, avec des points négatifs, et dans ces expérimentations, eh bien, c'est une rencontre factuelle, c'est une rencontre d'homme à homme, au sens générique du terme, bien évidemment. Et ces tables inspirantes, on le sait par le passé, elles ont des effets dans la suite des événements. Voilà pour tout ce qui va se passer le samedi. Bon, à la fin du samedi, on aura l'impression de ne pas être tout à fait aussi ignorant sur l'intelligence artificielle que la veille.
Alors j'ai vu le dimanche, l'après-midi, est consacré à la question IA et souveraineté. Faut-il vouloir l'indépendance stratégique de la France ? Est-ce encore possible dans ce domaine de l'intelligence artificielle ? Alors ça, il me semble que c'est une question fondamentale. Et va intervenir tout de même le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères lui-même, Jean-Noël Barrot.
Voilà. Alors, c'est effectivement une question fondamentale. Et je suis extrêmement heureuse que l'on puisse avoir la présence de Jean-Michel Barrot. Jean-Noël Barrot, à cette occasion, parce que c'est un des sujets, j'ai envie de dire, qui mine la Commission européenne. Parce que on est tellement attaqué sur le plan international par les pays dans lesquels l'intelligence artificielle a progressé plus vite qu'en Europe, que il ne suffit pas de dynamiser les pépites que nous avons en matière d'intelligence artificielle, il faut aussi qu'on se protège. Parce que l'intelligence artificielle, et moi j'en suis une utilisatrice, eh bien, quand je pose une question, ce qu'on appelle un prompt, à ChatGPT, où est-ce qu'il va chercher les données qu'il me donne ? Dans tout ce qui a été écrit sur la planète.
Sur le sujet en question.
C'est-à-dire ce qui a été écrit par des Français, ce qui a été écrit par des Européens et ce qui a été écrit par des Américains. Tout ceci, c'est-à-dire qu'en fait, il n'invente rien. Il va chercher, et il va chercher dans les articles de journaux, dans les livres, c'est-à-dire dans notre propriété intellectuelle. Et c'est ça qui est terrible. Enfin, c'est terrible. Ça tombe bien, puisque, au fond, il y a des chances que ce qu'il va chercher dans des livres qui ont été écrits par des gens qui ont beaucoup travaillé soit exact. Mais ça veut dire aussi qu'il n'a pas acheté le livre. Et donc, la propriété intellectuelle, elle n'a pas été rendue, on n'a pas rendu à César ce qui était à César. D'autant plus qu'on ne sait pas toujours comment est-ce que...
Bah,
il
n'y
a pas toutes les sources.
Voilà, on ne les connaît pas toujours.
On ne les connaît pas. Et donc, cette question de la souveraineté, elle est vraiment au cœur du débat. Et il se trouve que ce matin, quand j'écoutais la radio, on parlait de cet outil que nous utilisons tous lorsque nous prenons un rendez-vous médical. Eh bien, les créateurs de cette source sont des Français et ils travaillent en permanence avec tout le corps médical. Et pour l'instant, ceci est franco-français. Et ça a beaucoup changé notre façon d'aller demander un rendez-vous à un soignant, quel qu'il soit. Donc on a des pépites en France et en Europe. Tout le monde maintenant connaît Mistral. Mais il n'empêche que ce sont des jeunes pépites. Et que les grands GAFA, et on est dans la phase où l'Europe est en train d'essayer de taxer les GAFA avec toute la difficulté que nous avons. Et la montée en puissance du président des États-Unis contre cette disposition. Donc, au fond, le ministre Jean-Noël Barrot, qui sera présent, il va nous expliquer les efforts que fait l'Europe pour garder cette souveraineté. Donc, vous voyez, il faut que nous soyons tous conscients de cette dynamique qui est en route et que, quelque part, cela nous donne envie d'utiliser l'IA, cela nous fasse comprendre les règles que nous devons appliquer en matière d'utilisation et que nous soyons plus à même de recommander ou de décommander l'utilisation de certains outils de l'intelligence artificielle.
Ce sera ce qu'on appelle l'esprit critique et encore faut-il le nourrir, l'esprit critique. On va en rester là. Merci beaucoup Marie-Christine Monnoyer de nous avoir présenté d'une part l'association et les activités des Semaines Sociales de France et puis de nous avoir présenté le programme de la rencontre annuelle des SSF qui se déroule à Bordeaux les 15 et 16 novembre. La révolution de l'IA, un défi éthique et démocratique, construire ensemble pour aider au discernement. C'est donc le thème de cette édition 2025. Vous vouliez préciser autre chose?
Oui, je voulais préciser que par exemple pour les étudiants, le tarif en présentiel n'est que de 20 euros. Il est plus élevé pour 2 jours pour ceux qui ont dépassé la période des études, mais qu'il y a même des propositions d'hébergement fraternel pour faire en sorte que le coût de cette participation soit le plus léger possible.
Le plus abordable possible.
Voilà. Alors,
toujours est-il que pour connaître tout le détail du programme et pour vous inscrire afin d'assister à cette rencontre sur place ou en ligne, il faut vous connecter au site www.ssf-fr.org. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la réalisation Jonathan Botello. Merci à tous de votre fidélité à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.